Matthieu chapitre 25, versets 1, 5 et 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Verset 5. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. « Voici l'époux qui vient, sortez au devant de lui. » Bonjour à tous, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, et en vous souhaitant un bon sabbat. Aujourd'hui, j'aimerais parler du cri de minuit et de cette autre voix du ciel. Comme vous avez peut-être pu le discerner par notre lecture biblique de Matthieu chapitre 25, la méditation d'aujourd'hui, elle a à voir avec cette parabole des 10 vierges. Mais j'aimerais en parler sous un aspect qui est rarement abordé et qui pourtant est si requis, si nécessaire pour nous qui vivons en ces derniers jours. Et donc mes frères et sœurs, j'aimerais me mettre en avant et suggérer à votre esprit ou vous faire vous rappeler de ce que vous avez peut-être déjà vu et remarqué, à savoir que parmi les milieux adventistes, nous entendons souvent l'élargissement concernant la parabole des 10 vierges. Nous entendons souvent parler des 5 sages et des 5 folles. Et l'enseignement qui est typiquement communiqué, c'est que nous vivons dans cette période de la Odyssée et que nous sommes en danger de dormir spirituellement. Et la leçon nous est donnée que nous avons besoin d'huile dans nos vaisseaux, à savoir nos corps, avec nos lampes, à savoir la Bible, et qu'il ne nous faut pas dormir. C'est ce qui est souvent relaté, c'est ce qui est souvent présenté dans cet élargissement en messages et sermons et présentations et études du chapitre 25 de Matthieu. Mais quoique tout cela soit correct et absolument vrai, quoique ce soit vrai, il y a cependant un élément qui est omis et qui est négligé. Un élément qui est systématiquement omis et négligé. Non pas par choix, non pas délibérément, mais très certainement par ignorance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que j'aimerais faire, c'est dissiper ce voile et ce nuage d'ignorance et faire briller la clarté de ces versets à la lumière de l'illumination du discernement que le Seigneur nous donne par son esprit et par notre étude de bon sens de sa parole. Et cet élément qui est omis et négligé, ce n'est autre que l'activité qui nous est présentée dans le verset 6, dans Matthieu chapitre 25, verset 6. Et donc je vous invite à relire cette parabole plus ou moins en entier pour nous remettre en mémoire ce dont il s'agit. Donc j'aimerais qu'on commence par Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'à 7. Et donc, vous savez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons mettre de côté la partie qui commence au verset 8, qui a à voir avec ce dilemme entre les vierges sages et les vierges folles. Parce que j'estime que vous l'avez déjà tellement entendu que ça ne fera pas grand bien que je vous rappelle quelque chose qui a été ressassé pendant des décennies et qui ne fait presque plus rien maintenant. C'est comme si on parle à un mur. J'aimerais parler de quelque chose dont on ne vous a pas parlé. Non pas pour être original, mais pour présenter la vérité qui a été perdue de vue. Dans Matthieu chapitre 25, nous commençons au verset 1, où Jésus disait: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau ou leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient. Sortez au devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes, etc. Et ensuite, les vierges folles, ou comme on pourrait dire les vierges qui ne sont pas sages, parce que c'est ça que cela veut dire dans le vocabulaire biblique, d'être fou. Être fou, c'est ne pas être sage. Ne pas être sage, c'est être fou. Et c'est pour ça qu'on en appelle certaines les 5 vierges sages et les vierges folles, celles qui ne le sont pas. Qui ne sont pas sages. Qui n'ont pas la sagesse. Mais nous ne nous concentrons pas sur ça. J'aimerais attirer votre attention vers quelque chose dont on ne parle même pas, qui est complètement omis. Donc, nous parlons souvent des deux groupes, les vierges sages et les vierges folles. N'est-ce pas? Mais d'où vient le cri de minuit quand ces deux groupes-là sont endormis? Hein? Parce que nous lisons au verset 5 que comme l'époux tardait à venir, elles, les 10 vierges, les folles et les sages, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Ok? Donc elles s'assoupissent, elles s'endorment, pardon. Mais dans cette parabole, il y en a qui ne dorment pas. Parce que nous lisons au verset 6 que sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez au devant de lui. Et alors donc les vierges, elles entendent le cri et elles se lèvent et préparent leur lampe. Donc que s'agit-il ici? J'aimerais lire pour cela les paroles de l'inspiration. Et nous permettre d'arriver à une conclusion qui découle de notre propre entendement, de notre propre méditation, de notre propre lecture de la parole et du témoignage, des témoignages de Jésus. Je lis ici dans les paraboles de Jésus, le livre Les paraboles de Jésus, à la page 357 et au paragraphe 1 à 3, où il est écrit. Christ est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le soleil a disparu à l'horizon par-delà les collines et le ciel a pris ses teintes du soir. On aperçoit très distinctement une maison brillamment illuminée, comme pour quelque festivité. De toutes les fenêtres jaillissent des flots de lumière. La foule, groupée aux alentours, indique qu'un cortège nuptial va bientôt apparaître. Dans plusieurs contrées de l'Orient, Les cérémonies de mariage se célèbrent le soir. L'époux va à la rencontre de l'épouse pour la conduire chez lui. Et c'est à la lueur des flambeaux que la procession se dirige de la demeure de la jeune femme vers celle du mari, où un banquet a été préparé en l'honneur des invités. Dans la scène que contemple Christ, des personnes rassemblées attendent l'arrivée du cortège avec l'intention de s'y joindre. Donc ça, c'était la scène qui se présentait, la scène physique, réelle, qui se présentait à Jésus et aux disciples, alors que Jésus leur donna cette parabole. Une vraie scène. Dans la scène que contemple Christ, des personnes rassemblées attendent l'arrivée du cortège avec l'intention de s'y joindre. Tout près de la maison de la fiancée se tiennent 10 jeunes filles en robe blanche, chacune est munie d'une lampe allumée et d'un petit vase à huile. Elles attendent avec impatience l'arrivée de l'époux, mais celui-ci tarde à venir. Après quelques heures, elles se lassent et s'endorment. À minuit, le cri se fait entendre. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Réveillées en sursaut, les jeunes filles se lèvent précipitamment et voient le cortège nuptial s'approcher, illuminé par des torches et égayé par les accents de la musique. Puis elles discernent les voix de l'épouse et de l'époux. Les 10 vierges prennent leurs lampes, les mouches et se hâtent de rejoindre le cortège. Donc, est-ce que vous voyez ici dans cet élargissement, qui n'est autre que ce que nous venons de lire, mais avec plus de détails, dans l'élargissement de l'esprit des prophéties, est-ce que vous voyez ici plus de deux groupes? C'est ce que nous voyons dans le verset 6. Nous voyons ici un troisième groupe, n'est-ce pas? Pas simplement les vierges sages, pas simplement les vierges folles, mais un troisième groupe que l'esprit de prophétie décrit par ces mots, à savoir, je le relis, la foule groupée aux alentours indique qu'un cortège nuptial va bientôt apparaître. Et ensuite, je relis plus loin où il est écrit que dans la scène que contemple Christ, des personnes rassemblées attendent l'arrivée du cortège avec l'intention de s'y joindre. Hein? Et donc, les vierges, dans cette vraie scène, représentent dans les derniers jours ces personnes qui croient au message du troisième ange, comme l'esprit de prophétie nous le dit, des personnes qui sont attachées à la vérité. Certaines sages, certaines folles, certaines qui reçoivent l'huile, le Saint-Esprit, pour donner vie dans leur propre vie à la parole de Dieu, et certaines sages, certaines folles, pardon, qui, quoi qu'elles ont, la lampe, la parole de Dieu en leur possession, n'ont pas en elles-mêmes l'huile qui anime la lampe. Elles n'ont pas la même huile qui communique cette vie à la parole de Dieu. Elles n'ont pas en elles l'esprit qui a inspiré les prophètes. De telle sorte que quand elles ont besoin, quand elles entrent dans une situation où elles ont cruellement besoin de cette vie, elles ne l'ont pas. Et celles qui sont sages, ces personnes qui ont reçu l'esprit, qui ont pratiqué la parole de Dieu, elles ne peuvent pas communiquer aux autres cette vie. Eh bien, dans cette situation-là, ces deux groupes attendent l'arrivée du cortège. N'est-ce pas exactement ce qui se passe en ces derniers jours? Nous attendons l'arrivée de quelque chose pour nous dire, pour nous stimuler, pour nous appeler à quelque chose de plus élevé, à quelque chose de plus noble, de plus consacré, à une activité bien plus dévouée. Et ce n'est autre que le cri de minuit. Et c'est un troisième groupe. Et je vais pouvoir vous le montrer en lisant d'autres passages de l'esprit de prophétie et de la parole de Dieu qui nous aide précisément à discerner ceci. À discerner qu'il s'agit là pas simplement une belle histoire, une belle scène, mais une illustration en tout point de ce que traverserait le peuple de Dieu en ces derniers jours avant la fin du temps de grâce. Pour cela, j'aimerais que l'on puisse se tourner vers les paroles d'Apocalypse chapitre 18. Dans Apocalypse chapitre 18. Versets 1 à 3. Parce qu'en ces derniers jours, c'est facile de glisser de... comment c'était écrit ? De s'assoupir. Je crois que c'était ça le mot. Elles s'assoupissent et... elles attendent avec impatience l'arrivée de l'époux, mais celui-ci tarde à venir. Après quelques heures, elles se lassent et s'endorment. Elles se lassent. C'est facile de se lasser, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tellement impatients qu'il suffit que la chose soit à peine un peu retardée comparée à nos attentes. Et ensuite, nous nous lassons et nous nous endormons. Et c'est pour ça que Dieu a ordonné, a prévu, avait pour dessein que quelque chose stimule ces deux groupes, cette compagnie constituée de sages et de folles. Et nous le voyons ici dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, puis ensuite en passant vers le verset 4, où il est écrit. Après cela, après le troisième ange d'Apocalypse chapitre 14, je crois que c'est verset... Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12 et 13. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons. Et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Donc, nous avons vu cela dans nos études précédentes à de nombreuses reprises, à savoir que cet ange-là, cet ange, ce quatrième ange d'Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 3 n'est autre que ce mouvement qui vit naissance à travers le message de 1888 de la justice de Christ donné par les anciens Elliott Wagoner et Alonzo Trevor Jones. Et ce quatrième ange, il a commencé là et ensuite il s'est véritablement matérialisé en un nouveau mouvement lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Et ensuite, comme nous avons vu la dernière fois, il a fait l'expérience d'une nouvelle chute, comme nous avions vu dans nos principes de transition et toutes les autres études qui ont à voir avec la chute de cet autre ange. Je n'y reviens pas. Mais ici, après cela, après cette chute, le message continue et nous lisons au verset 4 qu'il y a une autre voie du ciel. Une autre voie qui appelle le peuple de Dieu pour les préparer, qui les réveille. J'ai entendu une autre voix du ciel. Un cri? Est-ce possible? Est-ce cela? Est-ce correct? Donc la chute du mouvement qui se matérialisa en 1914, cette autre tranche d'Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 3, elle ne met pas fin au message. Mais Dieu confie à d'autres la charge sacrée de ce dernier message, de ce dernier avertissement. Ça fait le lien entre nos études précédentes et notre étude d'aujourd'hui. Et maintenant, nous posons la question, donc est-ce possible qu'il s'agisse bel et bien à la fois dans la parabole des 10 vierges de Matthieu chapitre 25 et dans ce passage d'Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 4 et tout particulièrement le verset 4, est-ce possible qu'il s'agisse bel et bien d'un troisième groupe? Et la question est importante parce que s'il s'agit en effet d'un troisième groupe, c'est important pour nous de le savoir parce que si c'est cela, alors il faut que nous nous y attendions. Parce que si nous ne savons pas à quoi nous attendre, alors nous ne nous attendrons pas à cela parce que nous ne le savons pas ou nous ne le croyons pas. Mais si nous le savons et que nous le croyons et que nous comprenons ce à quoi Dieu désire que nous nous attendions, alors nous nous attendrons à cela et nous rechercherons cela, n'est-ce pas? De la même manière que c'est à travers leur étude des prophéties que les adventistes du septième jour en sont arrivés à une capacité mentale et spirituelle et émotionnelle pour discerner dans les prophéties la date du 22 octobre 1844. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il leur a d'abord fallu comprendre qu'il y avait quelque chose qui était spécifié dans ces paroles de Daniel chapitre 8 verset 14. Il leur a fallu comprendre qu'il y avait quelque chose de renfermé là-dedans qui avait un sens, une signification et une importance pour qu'ils puissent le trouver. Ça veut dire que Dieu n'a pas tout fait pour eux. Ils ont fait une recherche, Dieu les a guidés, ils ont coopéré et ensuite ils ont reçu les réponses à ce cheminement, à ce questionnement qui commença par les études de William Miller. Et donc pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui sommes à la fin de la fin, nous avons besoin de savoir à quoi nous devons nous attendre. Parce que si nous nous attendons à quelque chose qui s'est déjà passé, alors nous allons passer à côté. Et si nous ne nous attendons pas, ou nous croyons qu'il n'y a rien à attendre là où il y a quelque chose que nous devrions regarder et guetter, alors aussi nous passerons à côté. Je lis ici dans Premiers Écrits, à la page 277, paragraphe 1 et 2. Et donc, nous essayons de répondre à la question. Donc, je vous invite à être vigilant parce que ici, je ne vais pas lire mes propres pensées, mes propres paroles. Et puisque nous lisons l'esprit de prophétie, je veux vous inviter à examiner si ce que je suis en train d'affirmer est correct et vérifiable. Premier écrit, page 277. J'ai vu des anges voler rapidement ça et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelque événement important. Ensuite, je vis un autre ange puissant envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Vous voyez qu'ici, elle est bel et bien en train de parler de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, ce quatrième ange. Et écoutez bien ce qui est écrit. Cet ange était doué d'une grande puissance et d'une grande gloire. Lorsqu'il descendit, la terre fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout, tandis qu'il criait d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la Grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. Donc vous voyez, il s'agit ici d'une amplification du message du second ange, avec une mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises depuis 1844. Donc le second ange, c'était pour les églises du temps de 1843. Mais maintenant, il s'agit de la corruption additionnelle qui a envahi les églises depuis la date de 1844. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième ange au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour subsister à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je les vis environnés d'une grande lumière et ils s'unirent pour proclamer sans crainte le message du troisième ange. Maintenant, écoutez bien. D'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. Et j'entendis des voix qui semblaient résonner partout disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne receviez point de ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Hein » Elle vient de citer, n'est-ce pas, le verset 4 d'Apocalypse 18. Et voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui nous est dit. Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. La gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et ils proclamèrent sans crainte le solennel et dernier avertissement annonçant la chute de Babylone et appelant le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle afin de pouvoir échapper à son terrible sort. Donc, qu'est-ce qui nous est dit au sujet de cette autre voix du ciel qui nous permet de répondre à la question de savoir s'il s'agit bel et bien, si ce cri de minuit de Matthieu chapitre 25 verset 6, s'il s'agit bel et bien d'un troisième groupe. S'il s'agit bel et bien d'un groupe, est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est juste Jésus et l'Esprit? Non, mais c'est parce que ça, c'est ça qu'on dit. J'ai entendu ça. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que c'est un peuple auquel Jésus appelle son peuple? Ou est-ce que c'est juste quelque chose de flou, juste une voix qui vient du ciel comme ça? Je relis. Ce message... de l'autre voix du ciel. Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. Donc en d'autres termes, comprenez bien ce qu'il nous est dit ici. En d'autres termes, cette autre voix du ciel est au troisième ange ce que le cri de minuit était au second ange. Vous comprenez? Le cri de minuit était en lien avec le second ange d'Apocalypse chapitre 14, ce que l'autre voix du ciel est en lien avec le troisième ange d'Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 13. Donc cela veut dire que nous pouvons nous attendre à ce que le cri de minuit, cette autre voix du ciel, cette répétition, ce renouvellement de l'accomplissement des paroles de Matthieu chapitre 25, verset 6, en lien avec le troisième ange, nous pouvons nous attendre à ce que il ait la même influence sur le peuple de Dieu que le cri de minuit avait eu sur le peuple de Dieu en lien avec le second ange dans les années 1843 à 1844. Qu'est-ce que le cri de minuit a eu comme effet sur eux? Il les a fait moucher leur lampe, comme c'était écrit, pour reprendre les paroles de parabole de Jésus. Il les a fait rallumer leur lampe, il les a réveillés, il a réveillé les fidèles pour se préparer à la rencontre de l'époux, pour se préparer à ce qu'ils s'attendaient être le retour de Jésus. Or, ce n'était pas le retour physique en gloire, pardon, mais l'arrivée de Jésus dans le lieu très saint et le commencement du jugement investigatif. Ce qui nous est montré dans Daniel chapitre 7, je crois, à partir du verset 9, où nous voyons le Fils de l'homme, il est transporté sur les nuées, et aussi l'ancien des âges, il est transporté. Parce que le sanctuaire céleste, c'est un endroit gigantesque. Et donc, sur leur trône, leur trône qui se déplace, je n'ai pas de mots, eh bien, ils se sont transportés, à la fois le Père et le Fils, du lieu saint au lieu très saint, pour passer à l'œuvre du jugement investigatif et de la purification du sanctuaire céleste qui est directement lié à la purification de nos caractères. Donc vous voyez ici, pour bien cerner ce que nous venons de lire, dans ce passage de premier écrit, page 277, paragraphe 2, Apocalypse chapitre 18, verset 4 nous est cité. Et ensuite, il est écrit, ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. Et qu'est-ce que le cri de minuit a causé parmi les fidèles? Il les a poussés à se préparer plus de consécration, plus de dévotion, et il les a séparés des groupes qui avaient rejeté le message du premier ange, qui disait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et c'est en lien direct avec l'annonce du retour de Christ. C'est ce que les églises protestantes avaient rejeté. Et le cri de minuit a solidifié cela et a propulsé les croyants dans ce cheminement vers la Canaan céleste, comme l'esprit de prophétie nous dit par rapport à cet effet spirituel sur le peuple de Dieu de ce cri de minuit. J'aimerais ici lire pour compléter cela et agrandir notre panorama de ce sujet, j'aimerais lire dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 233, paragraphe 2, vers la page 234. C'est maintenant le moment pour les insouciants de se réveiller de leur sommeil. C'est maintenant qu'il faut supplier les âmes, non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de mettre sans tarder de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Cette huile, c'est la justice de Christ. Elle représente le caractère. Et le caractère ne se transmet pas. Aucun homme ne peut l'obtenir pour un autre. Chacun doit obtenir pour soi-même un caractère purifié de toute tâche de péché. Le Seigneur vient en puissance et en grande gloire. Il accomplira alors son œuvre de séparation complète entre les justes et les méchants. Mais l'huile ne pourra pas alors être transférée dans les vaisseaux de ceux qui ne la possèdent pas. Alors s'accompliront les paroles de Christ. Elle cite « De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. » Les justes et les méchants doivent se côtoyer dans l'œuvre de la vie, mais le Seigneur lit le caractère. Il discerne ceux qui sont des enfants obéissants, ceux qui respectent et aiment ses commandements. Le regard extérieur n'y voit peut-être pas de différence, mais il y en a un qui a dit que l'ivraie ne devait pas être arrachée par des mains humaines, de peur que le blé ne soit lui aussi déraciné. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Alors le Seigneur envoie ses moissonneurs pour cueillir l'ivraie et la lier en faisceau pour la brûler, tandis que le blé est assemblé dans le grenier céleste. Maintenant, lisez, écoutez bien, parce que c'est maintenant que tout cela prend du sens, où il est écrit. Le temps du jugement est une période des plus solennelles lorsque le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Hein, nous avions vu cela, je crois que c'est dans les révélations vitales sur la moisson. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que le Seigneur envoie ses moissonneurs pour cueillir l'ivraie et la lier en faisceau et pour d'un autre côté rassembler son blé dans le grenier céleste? Hein? Est-ce que c'est juste quand Jésus vient physiquement, alors là, il fait tout le tri? Non, ce n'est pas cela, parce qu'il nous est dit spécifiquement que le temps du jugement est une période des plus solennelles lorsque le Seigneur fait quoi? Rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Nous voyons déjà dans la parabole de l'ivraie et du blé que ce sont deux groupes de personnes qui font la même profession de foi, alors qu'il y en a qui sont vraiment qui sont un fruit de Dieu, qui ont les fruits de l'esprit, qui sont mûrs par l'esprit, qui ont un caractère qui est propre au ciel. Il y en a d'autres qui n'ont pas le caractère, qui n'ont pas le fruit de Dieu, qui sont de l'ivraie, que la parole présente comme de l'ivraie. Eh bien, le temps du jugement est cette période pendant laquelle le Seigneur fait le tri, le Seigneur crible, le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Quoi d'autre? Ceux qui ont été membres de la même famille sont séparés. Une marque est placée sur les justes. Les paroles de Malachie sont citées. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, en ce jour où je prépare mes joyaux, et je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. » Ceux qui ont été, écoutez maintenant, ceux qui ont été obéissants au commandement de Dieu s'uniront à la compagnie des saints dans la lumière. Ils entreront par les portes dans la ville et auront droit à l'arbre de vie. L'un sera pris, son nom sera inscrit dans le livre de vie, tandis que ceux avec qui ils s'étaient associés recevront la marque de séparation éternelle d'avec Dieu. Je relève, nous relevons. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un troisième groupe? Vous lisez ici. Il est écrit, ceux qui ont été obéissants au commandement de Dieu, Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qui se passe? Nous lisons, ils s'uniront à la compagnie des saints dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? La compagnie des saints dans la lumière. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette illustration de Matthieu chapitre 25 qui nous était présentée par l'esprit de prophétie et élargie? J'y reviens. Voilà ce que l'illustration nous dit et vous y voyez vraiment quelque chose de concret parce qu'il est écrit, c'était dans Parabole de Jésus, page 357, paragraphe 3. Réveillés en sursaut, les jeunes filles, donc les vierges, les dix vierges, qui sont symboliques du peuple de Dieu, qui fait profession de foi au message du troisième ange, en ces tout derniers jours avant le retour de Jésus. Réveillés en sursaut, les jeunes filles se lèvent précipitamment et voit le cortège nuptial s'approcher. Et à quoi ressemble-t-il? Illuminé par des torches et égayé par les accents de la musique. Puis, elle discerne les voix de l'épouse et la voix de l'époux. Les dix vierges prennent leurs lampes, les mouches, et se hâtent de rejoindre le cortège. Ensuite, il y a ce débat là, avec les folles qui n'ont pas d'huile et les vierges sages qui leur disent non, mais je peux pas te donner mon huile parce que je peux pas. Si je te donne, après j'en ai plus. Mais de toute manière, ça ne peut pas se transmettre. Donc, mais c'était dans cette illustration, il y avait cette difficulté du. C'était physique, c'était une vraie chose, c'était une vraie scène. Et donc les filles, elles ont dit à celles qui n'avaient pas pris leur huile, ben désolé, si j'en prends pas, moi j'en ai plus. Mais dans la réalité, le vrai problème, c'est que je ne peux même pas te la donner, l'huile. Parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et ce cortège qu'ils s'en vont rejoindre, qu'ils attendaient de pouvoir rejoindre avant de s'être assoupi et de s'être endormi, ce cortège est illuminé par des torches. Et je reviens donc dans ce que je lisais juste avant. Ceux qui ont été obéissants, hein, par rapport à ce tri pour le grenier céleste. Vraiment, c'est vraiment la dernière préparation. Lorsque tout est mûr, le Seigneur ensuite trie. Et c'est le temps du jugement investigatif et cette période pendant laquelle le Seigneur fait ce tri. Et nous lisons que ceux qui ont été obéissants, hein, en arrivant à cette fin-là, ceux qui ont été obéissants, ceux qui ont marché dans la lumière que Dieu a fait briller sur leur sentier individuel, qu'est-ce qu'ils feront? Ils reconnaîtront. Ils reconnaîtront. Ils s'uniront à une compagnie dans laquelle et à travers laquelle ils reconnaissent la voix de l'époux et de l'épouse. La voix de l'époux, c'est qui? C'est Christ. La voix de l'épouse, qui est l'épouse? C'est son Église. La femme de Christ, son épouse, c'est l'Église. Et ils reconnaissent en cette compagnie des saints dans la lumière, ils reconnaissent la voix de Christ et la voix de la fiancée. Et c'est pour ça qu'ils la rejoignent. Ils s'uniront à la compagnie des saints dans la lumière. Pourquoi? Qu'est-ce que cette compagnie leur a dit? Ils ont entendu une autre voix du ciel. Ce n'était même plus un ange, ils ont entendu une autre voix. Ils reconnaissaient la voix de l'époux et la voix de l'épouse. C'est pour cela, c'est à cela qu'ils se joignent. Ils ne se joignent même plus à une quelconque. Ce n'est plus une formalité. Il s'agit d'un pas de plus vers le salut éternel. Un pas de plus qui les rapproche vers leur saut dans la Canaan céleste. comme Sir White avait eu en vision cette vision du peuple de Dieu qui montait un chemin très escarpé et étroit, et ce chemin devenait de plus en plus étroit, et au bout d'un moment, il devait laisser les chariots derrière, les charrettes, il devait laisser leurs chevaux, ensuite il devait laisser plus en plus d'affaires, ensuite ils devaient enlever leurs souliers, ensuite leurs chaussettes, ils devaient marcher pieds nus, et ensuite ils n'avaient plus que des cordes auxquelles ils pouvaient s'agripper. Et c'est ça qui nous est présenté. Ils s'uniront à la compagnie des saints dans la lumière. J'aimerais pour terminer, lire ce passage de premiers écrits à la page 270, paragraphe 4, jusqu'à la page 271. Et vous écoutez, vous discernez encore une fois la même chose qui nous est communiquée ici, par rapport à cette compagnie-là, ce groupe-là, au sujet desquels nous lisons à de nombreuses reprises dans Conseil à l'Église et aussi Premier Écrit, par rapport à ce criblage. Ils sont criblés et ensuite vous les voyez de plus en plus triomphants, de plus en plus criblés et de plus en plus triomphants. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus qu'un tout petit, reste. Et que le Seigneur fasse retentir son appel à travers des personnes qui ont été purifié, éprouvé, diminué, criblé, jusqu'à ce qu'il reste une poignée, comme les 300 de Gédéon, et que le Seigneur alors puisse briller. Hein? Je lis, premier écrit, page 270, et paragraphe 4. L'ange dit, écoutez. Bientôt, j'entendis une voix ressemblant à un grand nombre d'instruments de musique, douce et harmonieuse. La mélodie dépassait tout ce que j'avais jamais entendu. Elle semblait être pleine de miséricorde et de compassion, d'élévation et de sainte joie. Tout mon être en tressaillit. L'ange dit, regardez. Mon attention fut alors attirée par le groupe que j'avais vu, hein, dans la vision précédente, qui était terriblement criblé. Ceux que j'avais vus auparavant me furent montrés pleurant et priant avec angoisse. Le nombre des anges gardiens qui les entouraient avait doublé et ils étaient armés, hein, ces personnes-là, pas les anges, ces personnes-là, ils étaient armés de la tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre parfait comme une compagnie de soldats. Les visages des fidèles révélaient le combat terrible qu'ils avaient livré. Cependant, leurs traits, marqués par l'angoisse, resplendissaient maintenant de la lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la victoire. Et ils en éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie. Le nombre de ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et laissés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui appréciaient suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière, n'obtinrent rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leur place était immédiatement prise par d'autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient à les entourer, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus, des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents, les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité, l'acceptaient maintenant avec empressement. La crainte des parents avait disparu. Seule comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Qu'est-ce que c'était ? Un ange me répondit, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de devant la face du Seigneur, le grand cri du troisième ange. C'est cela qui propulsa cette compagnie de soldats pour parler et déclarer et proclamer la vérité avec beaucoup de puissance, ce qui stimula le peuple de Dieu dans Babylone et les vierges sages qui, quoi qu'elles se sont endormies, quoi qu'elles se sont assoupies, n'ont pas pour autant fléchi le genou devant Baal. Voilà, mes frères et sœurs, le tracé prophétique qui nous trace une ligne droite du cri de minuit qui fut proclamé au temps du second ange en 1844 et qui brille jusqu'à l'arrivée, au retour de Jésus. Puissions-nous recevoir le discernement qui vient de Dieu pour apprendre à découvrir et reconnaître la voix qui vient de Dieu, cette autre voix du ciel qu'il fait retentir à travers cette compagnie des saints dans la lumière, ce cortège nuptial dans lequel le peuple de Dieu reconnaît la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Puissions-nous déterminer aujourd'hui de garder les commandements de Dieu et de nous unir à cette compagnie pour prendre avec eux le sort qui nous est réservé, la croix et ensuite la couronne. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions être fortifiés dans nos choix pour l'éternité, que nous puissions nous réjouir de ce que nous faisons le bon choix et de ce que ce choix nous transportera vers la gloire du ciel. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse conjointement dans cette appropriation, cette assimilation de sa parole pour marcher de l'avant et suivre dans les traces du Seigneur et obéir à la voix de sa providence. Au nom de Jésus. Amen.